Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Jean-Claude Michéa.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et hier, à la une du Monde, il y a un néologisme qui est né, le michéisme. Le michéisme, c'est quelque chose qui vous concerne. Alors je ne sais pas si le michéisme, c'est l'ensemble des contresens faits sur votre œuvre, puisque c'était ce que l'on disait sur le marxisme. Mais en tout cas, et cela va nous donner l'occasion tous les deux, de tenter de dessiner les contours de votre pensée, d'essayer de comprendre quelle est votre conception du monde, de la gauche et du moment que traverse la France. Et si vous le voulez bien, on va débuter par une œuvre qui est à l'origine, en quelque sorte, de votre inspiration. Cette œuvre, c'est celle de George Orwell.
Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. La nouvelle de cet extraordinaire changement souleva partout l'indignation des animaux. Frappés de stupeur et de rage, ils marchèrent sur Animalville, instinctivement unis pour défendre la cause commune.
Loyaux et fidèles partisans, dans les fermes où nous les porcs sommes les maîtres, nous voyons régner l'ordre et la discipline. Nos frères inférieurs travaillent beaucoup plus, mangent beaucoup moins que dans les autres fermes. Ceci vous encouragera à exiger d'eux un rendement encore meilleur pour une ration encore moindre.
Un extrait de La ferme des animaux. Pourquoi Orwell a-t-il servi en quelque sorte de base à votre pensée, Jean-Claude Michéa?
Orwell, à l'époque où j'ai commencé à écrire sur lui, c'était quelqu'un qui n'était connu que comme un écrivain. Pendant très longtemps en France, on ne pouvait pas trouver les essais d'Orwell. Comme moi, au contraire, j'avais dès le début commencé par lire les essais avant de lire les romans. Ça, c'est toujours la déformation du philosophe. J'avais trouvé chez Orwell quelque chose d'assez étonnant, qui n'avait pas beaucoup de répondants en France, peut-être Camus et quelques auteurs comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui obstinément restait un socialiste jusqu'à la fin de sa vie. Pas question de souscrire à toutes ces interprétations qui faisaient d'Orwell un agent de la CIA et quelqu'un de réconcilié avec le système. C'était vraiment un socialiste populiste, mais qui, en même temps, combattait sur deux fronts qui étaient quasiment obsessionnels pour lui. D'une part, la tendance des révolutionnaires et des révolutions à confier le pouvoir à la longue à une oligarchie, c'est toute l'histoire de La ferme des animaux. Une révolution commence dans l'unanimité et à la sortie, il y a toujours une petite élite, une petite oligarchie qui s'empare du pouvoir. Donc là, cette critique de la volonté de puissance et du mécanisme qui conduisait une révolution à dégénérer, c'est l'aspect anarchiste d'Orwell. Et puis, de l'autre côté, il y avait chez Orwell, et ça c'était encore beaucoup plus curieux et beaucoup plus intéressant, surtout aujourd'hui, il y avait une critique de ce qu'il appelait le mythe du progrès. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement en avant automatique de l'histoire qui doit nous conduire du petit au grand, la petite boulangerie du village jusqu'à la Silicon Valley, et que cela est le sens de l'histoire. En sorte que, comme il le disait, Les partisans du socialisme de nos jours, il l'écrivait en 36, toute leur propagande consiste à dire que là où nous avons un avion, nous en aurons 50, là où tout est en matière naturelle, ça sera en plastique, etc., etc. Et ça, c'est cet aspect conservateur, d'où le fameux anarchiste Tory, critique du progrès, critique du pouvoir. Alors moi, il n'y a jamais eu de michéisme de mon côté, puisqu'au fond, j'ai toujours voulu être quelqu'un qui serait un passeur entre l'œuvre d'Orwell et de quelques autres, comme notamment Christopher Lasch.
Christopher Lasch, qui est un sociologue américain, qui a notamment beaucoup de développé de critiques de la modernité du point de vue, par exemple, du narcissisme, du consumérisme.
Voilà, il est sur les mêmes lignes qu'Orwell et quelques autres, mais ils sont pas très nombreux, disons, au XXe siècle. Et peut-être que nous vivons justement une époque où on commence à entendre les analyses critiques de ces deux partisans du socialisme.
Alors, on va reprendre les différents traits de votre pensée, Jean-Claude Michéa, celle que vous développez notamment dans votre dernier livre, Notre ennemi, le capital, sont des traits importants parce qu'en fait, ils prennent la gauche à rebrousse-poil, d'où la perplexité qu'on lisait hier dans Le Monde, parce que on ne peut pas dire que ce dossier était sympathique à votre égard, mais il n'y avait pas non plus de critique frontale. Alors d'abord, vous avez employé le terme de populisme. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est pour vous le populisme? Est-ce pour vous un mouvement politique à condamner? Est-ce quelque chose avec lequel on peut composer? Et vous avez évoqué cela lorsque vous citiez la pensée de Rouel.
D'abord, étant donné la génération à laquelle j'appartiens, je dois rappeler que dans ma jeunesse, et notamment à l'époque de mai 68, le mot de populisme était employé de manière entièrement positive. Il se référait essentiellement à deux mouvements, le populisme américain de la fin du 19e siècle et le populisme russe avec lequel Marx était rentré en relation vers la fin de sa vie. Alors qu'est-ce que, quand on lit par exemple le livre de Venturi qui est paru en 52 sur les intellectuels, le peuple et la révolution, qui est le meilleur livre sur le populisme russe, on voit d'abord que le populisme était considéré comme une branche du socialisme, mais sa marque, c'était la grande différence avec le socialisme traditionnel, c'était de penser que le sujet de la révolution, les catégories à émanciper, c'était pas le seul prolétariat industriel, mais l'ensemble des classes populaires, artisans, paysans, petits entrepreneurs, et c'était sur cette différence que se jouait le débat avec le marxisme. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que populisme à l'origine, c'est une branche particulière du mouvement socialiste au XIXe siècle. Quand on voit l'usage qui est fait du mot depuis la fin des années 70, pas avant, on est assez étonné par ce qui s'est passé du côté de la politologie.
Et votre utilisation de Venturi, qui est là aussi l'une des références de la gauche atypique, montre que vous dessinez un chemin très particulier dans votre conception même de la gauche. L'autre point qui est à mon avis assez important et qui était souligné hier, probablement pour vous critiquer dans ce dossier du Monde, c'est de dire que finalement vous constituiez un pont entre la pensée de gauche critique et la pensée conservatrice, parce que vous vous considérez, vous allez me dire si je me trompe, comme un conservateur. Expliquez-nous pourquoi, Jean-Claude Michéa.
Alors, je vous remercie de poser cette excellente question, parce que ça va me permettre de préciser que, maintenant un quart de siècle que j'écris, je ne me suis jamais défini une seule fois avec le mot conservateur, ni pour me dire anarchiste conservateur, ni pour me dire socialiste conservateur. On trouvera jamais une seule fois cette expression. Ce que je dis, au contraire, mais après, est-ce que les journalistes sont capables de l'entendre, c'est qu'il y a un moment conservateur dans la critique socialiste du capitalisme. Ça, c'est tout à fait différent. On peut développer ça très rapidement. Et c'est au fond la thèse récurrente de mes livres, et notamment du dernier, c'est que à l'origine, l'ennemi de la gauche, c'est le vieux monde et les forces du passé. C'est l'ancien régime. Alors que l'ennemi du socialisme, depuis la révolution industrielle, c'est la société moderne. Et donc, il y a, à partir de là, un paradoxe qu'on doit comprendre très vite, c'est que la gauche se réclame de la philosophie des Lumières, mais le capitalisme aussi. Parce que Adam Smith, Turgot ou Voltaire, c'était pas Filmer, Bossuet ou saint Thomas d'Aquin, c'était des représentants de la philosophie des Lumières. Une fois qu'on a compris que le libéralisme et le capitalisme sont eux aussi des produits de la modernité et de la philosophie des Lumières, on comprend alors que la notion de progrès est beaucoup plus ambiguë qu'elle n'y paraît, et surtout que la fameuse opposition qu'on va vraiment se mettre en place sous Louis XVIII et Charles X est reprise aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui dirait que la politique et le débat se jouent entre partisans du progrès et conservateurs. On s'aperçoit que c'est là un lit de Procuste où on veut faire rentrer toutes les critiques et qui est absurde.
Mais là, c'est justement là où, à mon sens, il y a une ambiguïté peut-être que vous allez lever. C'est-à-dire que vous dites que finalement, votre pensée n'est pas conservatrice, mais vous êtes anti-conservateur. C'est-à-dire que ceux qui estiment être progressifs, alors vous n'êtes pas de leur bord, Jean-Claude Michéa.
Je suis anti-conservateur.
Oui, c'est-à-dire que vous considérez que ceux qui récusent le conservatisme n'ont pas raison nécessairement de le faire.
Ah, alors là, on est tout à fait d'accord sur ce point. C'est-à-dire, le drame qui s'est passé, notamment à partir de l'affaire Dreyfus, c'est que, à partir du moment où le clivage gauche-droite, progrès contre réaction, clivage qui d'ailleurs au passage disparaît à partir de 1945 parce que la droite moderne n'a pas pour but de faire remonter un Bourbon sur le trône ou de redonner les clés du pouvoir à l'Église catholique. À partir du moment où s'est mis en place ce clivage gauche-droite après l'affaire Dreyfus et puis surtout dans les années 30, il n'y avait plus de place cohérente pour la critique socialiste qui était à la fois une héritière des Lumières, reprenant les idées modernes de liberté et d'égalité, mais également une critique du progrès et de la modernité, de la société industrielle et de ses nuisances. Quand on lit Debord, ce qu'il décrit dans la société des spectacles, c'est l'hypermodernité. C'est pas le vieux monde. Hein. Et c'est donc, cours plus vite, l'hypermodernité est devant toi, derrière toi, je sais pas où on doit la mettre, mais ce qui disparaît avec ce clivage gauche-droite, notamment chez les intellectuels de gauche, c'est cette critique de l'hypermodernité qui, chez Guy Debord, Henri Lefebvre, la sociologie américaine, pour tous les gens qui ont mon âge, c'était, ça allait de soi que être un radical ou un révolutionnaire, c'était d'abord critiquer le monde que nous avions sous les yeux et pas celui de la société patriarcale, des processions religieuses qui passent au quartier latin toute la journée, en cagoule, etc. C'était pas cet ennemi. Hein. Et à partir de là, il est clair que devant cette captation de l'héritage socialiste par la gauche, qui va l'inscrire dans une sorte de mystique du progrès, où le seul ennemi, encore une fois, c'est le sombre passé, et non pas la Silicon Valley, ou Goldman Sachs, ou le réchauffement climatique, il est clair qu'une partie des gens, et notamment des jeunes, dont la sensibilité est tout à fait légitime, de n'avoir aucun enthousiasme pour le monde que nous prépare, par exemple, la Silicon Valley, eh bien de se retrouver dans une sorte de conservatisme, il y avait des bonnes choses dans le passé, un côté Bernanos, Chesterton, etc., qui les rendront ensuite beaucoup plus réceptifs à la redécouverte aujourd'hui du socialisme à laquelle j'essaye d'apporter ma pierre.
Voilà, alors c'est effectivement cette conception-là qui se dessine dans vos propos, c'est-à-dire une pensée qui assume son populisme, la décroissance également, Jean-Claude Michéa. Et puis, le troisième terme, vous en avez parlé, et c'est quelque chose d'assez étonnant, puisque à mon sens, vous aimez manier le paradoxe. La gauche évoque le moment de l'affaire Dreyfus comme un moment de genèse, et pour vous, c'est quasiment un moment de décadence. Expliquez-nous pourquoi.
C'est pas simplement pour moi. Dans le livre « Notre ennemi, le capital », j'étudie beaucoup la position de Rosa Luxembourg à l'époque, parce que c'est elle qui va faire la couverture dans la social-démocratie internationale la plus rigoureuse de l'affaire Dreyfus. Et elle est la première, avec d'ailleurs Paul Lafargue, Jules Guesde, etc., à avoir devant l'intervention du Parti Socialiste de l'époque, enfin des différents mouvements socialistes de l'époque, une position très complexe et qu'on dira très dialectique, si le mot a encore un sens aujourd'hui, qui consiste à dire, un, Jaurès a raison d'intervenir pour défendre le capitaine Dreyfus. Et quand elle dit qu'il a raison, c'était prendre une position courageuse, parce qu'au départ, les mouvements socialistes et syndicaux disaient qu'ils n'avaient rien à faire dans cette guerre civile bourgeoise. C'était, comme je le dis souvent, comme s'il fallait prendre position pour la mère ou la fille Bettencourt, pour les socialistes de l'époque. Mais, Rosa Luxembourg ajoutait aussitôt, le problème, c'est qu'en décidant de la part de Jaurès, non pas de soutenir la gauche, mais de fusionner avec elle, on allait rentrer dans une logique qui ferait qu'au bout de quelques temps, disait-elle, le Parti Socialiste, dans sa spécificité, c'est-à-dire comme parti dont l'ennemi est le capital, et non pas simplement l'aristocratie, l'Église et le vieux monde, alors que la gauche avait pour devise « le cléricalisme, voilà l'ennemi », sur le fameux discours de 1878 de Gambetta, à partir du moment où elle voulait fusionner avec la gauche, eh bien, à terme, elle serait phagocytée par elle, et cela d'autant plus, comme l'écrivait également Lafargue à l'époque, que le Parti Socialiste verrait progressivement sa direction tomber aux mains des nouveaux intellectuels issus de l'université et perdre peu à peu la base ouvrière de sa direction. Et juste pour terminer là-dessus, cette affaire Dreyfus, on pourrait dire oui, mais ça c'est franco-français. On oublie qu'elle a été étudiée en direct par tout le mouvement social-démocrate européen, qu'elle a donné lieu à l'époque à des discussions incroyable dans la social-démocratie que dans un premier temps, Kautsky et les dirigeants de l'Internationale validaient la position de Rosa Luxembourg, mais très vite, on est passé sur l'idée jaurésienne qu'il fallait, devant le péril de la réaction, que le mouvement ouvrier perde sa spécificité et comprendre que, pour l'instant, le combat contre la réaction, la nécessité, comme dans Clochemerle, de bouffer du curé, était prioritaire par rapport à la nécessité de combattre le capital. Or, je n'aurais pas quand même, en disant ça, avoir l'impression d'être un gardien de musée de la tradition socialiste. Si je dis ça, c'est simplement aussi parce que, depuis 2008, nous voyons à quel point cette critique socialiste, depuis la grande crise des subprimes, n'est pas du tout archaïque. S'il y a un mot pour la caractériser, je dirais qu'elle est prématurée. C'est uniquement parce que je pense que cette critique du 19e siècle est aujourd'hui plus actuelle que jamais que je me permets de revenir sur l'affaire Dreyfus et d'en tirer les conséquences.
Voilà donc un certain nombre de bases de votre pensée, Jean-Claude Michel. On a compris que finalement, avec le moment Dreyfus, pour vous, la gauche s'était en quelque sorte emparée de questions sociétales en oubliant la question sociale. On va voir aux environs de 8h20 avec vous dans quelle mesure cette pensée décroissante, populiste, critique interne de la gauche, puisque vous vous situez indéniablement, on l'a entendu, à gauche, et donc ce que vous essayez de faire en quelque sorte, c'est de remettre la gauche à l'endroit en reprenant en quelque sorte les bases, selon vous, de cette pensée-là. On va voir ce que la situation actuelle de la France et du monde vous inspire. Notre ennemi, le capital, c'est le livre que vous publiez aujourd'hui.